Père, nous avons quelques questions. Nous avons commencé à voir la vérité comme seconde dimension de la personne humaine. Et nous savons par ailleurs que vous avez entrepris un dialogue avec beaucoup de scientifiques, notamment dans le domaine de la vérité aussi. Et on voulait savoir si la vérité pouvait structurer la personne du scientifique.
Oui.
Est-ce que la vérité peut structurer, la vérité scientifique peut-elle structurer la personne humaine?
La vérité scientifique fait sûrement partie de la personne humaine, d'une certaine modalité de la personne humaine. Mais le savant comme tel ne donne pas un type de personne humaine. C'est une disposition à quelque chose de plus. S'il n'y a pas de recherche de sagesse, peut-il y avoir une personne humaine ? Alors, faisons bien la distinction. Hein. Il est sûr que la plupart du temps, aujourd'hui, la sagesse n'existe plus. C'est la mathématique qui a pris lieu de sagesse. C'est les mathématiques. Donc, c'est la suppression de la sagesse. Et parce que c'est la suppression de la sagesse, c'est la suppression de la personne humaine. Pas tout de suite. Mais arrivé à 45 ans. 50 ans. La personne humaine qui n'a pas voulu, de l'intention, n'a pas voulu regarder la sagesse, s'est contenté uniquement de la formation des sciences et des mathématiques. Il s'est disposé à la sagesse. Il s'est disposé, mais il n'est pas une personne humaine. Parce qu'il n'a pas atteint la finalité propre de l'homme. Vous voyez, la finalité propre de l'homme, c'est quand même la contemplation. Seule la contemplation peut satisfaire l'intelligence. Le drame des mathématiques, c'est qu'ils vous donnent une fausse sagesse. Vous croyez que vous avez atteint la sagesse, mais vous n'avez pas atteint la sagesse. Parce qu'au fond, ça reste toujours une connaissance où l'homme domine. L'homme domine dans les mathématiques. Les mathématiques sont une connaissance faite par l'homme et pour l'homme. Et donc, ne peuvent pas finaliser l'homme. On ne peut finaliser l'homme que si on est au-delà de l'homme. Si cette sagesse provient de l'homme et qu'elle est faite par l'homme, elle ne peut pas être sagesse. Elle est le fils de l'intelligence humaine. Elle provient de l'intelligence humaine. Elle peut être pour l'homme, et elle doit être pour l'homme, mais elle n'est pas au-dessus de l'homme. Elle ne fait pas découvrir ce qui est au-dessus de l'homme. Donc elle n'est pas sagesse. Elle ne peut pas découvrir Dieu. Elle ne peut rien nous dire de Dieu. Alors nous restons au niveau amitié, c'est sûr. On reste au niveau amitié. Il y a des grands savants, grands matheux, qui sont des amis entre eux. Alors, l'amitié est une certaine finalité de l'homme. Mais l'amitié ne donne pas la personne humaine dans toute sa dimension. Elle fait une dimension humaine qui, je crois, peut aller jusqu'à 45 ans, 50 ans. Je crois qu'on peut, jusqu'à 50 ans, vivre une uniquement d'amitié. Après, d'autres choses.
Et qu'est-ce qui se passe après ?
Quoi ?
Qu'est-ce qui se passe après, 50 ans ?
Si on est dans les mathématiques, si on reste dans les mathématiques, ça va pas bien. Bon. La sagesse, c'est nous. C'est notre connaissance. Alors on devient insupportable. Dès que vous touchez tant soit peu, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Moi, je connais des quantités, du moins plusieurs cas dans ma vie où on voit très bien jusqu'à 45, 50 ans, ça tient. Les mathématiques suffisent. Mais qu'il y a un vide. Alors, c'est où soit. Et on peut se prendre comme finalité. Il n'y a pas Dieu. C'est le tragique de l'homme, ça. Le tragique de l'homme, c'est de ne pas avoir découvert ce qui est au-dessus de lui pour être sa fin. Les mathématiques sont faites par l'homme et pour l'homme, mais ne finalisent pas l'homme.
Mon père, est-ce qu'on peut préciser la nature de cette disposition que qu'apporte la vérité scientifique ?
Oui, mais oui, sûrement. Les connaissances scientifiques sont des disciplines merveilleuses. C'est très beau de voir une intelligence formée par les sciences et avoir cette rigueur qu'ils ont. Alors c'est la rigueur mathématique, c'est la certitude mathématique, parce qu'au fond aujourd'hui toutes les sciences inférieures arrivent à un certain degré, les mathématiques interviennent. Les mathématiques tiennent lieu vraiment de sagesse. Et alors dans cette sagesse, ça dispose. Je me souviens cette parole. Il est mort maintenant, M. Marois, celui qui avait conduit ses savants à Rome. Et c'est ces grands savants qui n'étaient pas croyants. Quand le Saint-Père avait parlé, et son petit discours en leur disant « La science est pour l'homme et non pas l'homme pour la science. » Bon, ce qui est tout à fait élémentaire au point de vue sagesse. Le plus grand savant avait dit, quand il avait reçu ça, il avait dit « Seul le pape nous a dit ça. » J'ai jamais entendu ça de ma vie. Chaque fois, on dit, oh, la science, vous êtes arrivé à un degré très, très élevé, très bien, beau, magnifique, extraordinaire. Dire, La science est au service de l'homme. Elle est pour l'homme. J'ai trouvé ça très... Si je mets ça en pleine lumière, c'est très bien, très net. Et le savant risque toujours de regarder que l'homme est pour la science. L'homme est pour le progrès de la science. On vend son corps pour que la science puisse augmenter. C'est le corps. Alors le corps, la science est plus grande que le corps. Mais très facilement, le corps, on fait là, avec l'union là. Je crois que c'est très très important. Regardez que c'est quand on dit que c'est l'intelligence qui fait partie, la recherche de la vérité qui fait partie comme élément de la personne, c'est une intelligence qui cherche la sagesse. Une intelligence qui ne cherche pas la sagesse, qui s'arrête aux sciences mathématiques, ne font pas partie essentiel de la personne humaine.
Bon, pas il y a tout, enfin, l'objection actuelle de ce qu'on pourrait appeler l'école pythagoricienne, où proprement l'activité était aussi celle de la science, des sciences géométriques, arithmétiques, et tout orienté vers une certaine recherche de sagesse. Parce que lorsque vous parlez de disposition, de vérité scientifique comme dispositive à la sagesse ou à la personne humaine, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut entrer pleinement en dialogue avec ceux qui s'intéressent aux écoles anciennes pour pouvoir permettre cette émergence de la sagesse autour de la personne humaine.
Les pythagoriciens recherchent une sagesse qui n'est pas une sagesse humaine qui conduit au bonheur, non. C'est une sagesse géométrique ou arithmétique, mais c'est une sagesse de science mathématique. Donc, c'est ce que je dis des mathématiques, c'est pour eux aussi. Mais les pythagoriciens sont tout. Alors, ils atteignent un certain sommet, c'est sûr, c'est très important et très intéressant de converser avec un pythagoricien, mais c'est limité. Parce que, c'est toujours le même raisonnement, c'est l'homme qui fait la géométrie. C'est l'homme qui fait les mathématiques. C'est l'homme qui fait toute sagesse mathématique. Et non pas cette sagesse mathématique qui est au-dessus de l'homme, parce qu'elle touche Dieu.
Mais Père, pourquoi est-ce que la symbolique, par exemple, des chiffres est si séduisante pour l'homme d'aujourd'hui?
Oui, parce que justement, ils n'ont pas de sagesse. N'ayant pas de sagesse, et qui fait que l'homme, au fond, est fait pour ça. C'est encore dans ce domaine-là qu'on retrouve quelque chose de plus absolu, sur la valeur. C'est toute la philosophie des valeurs. La philosophie des valeurs, c'est quand même... On jouit de la connaissance. Et cette recherche de la science, on l'aime. On se gargarise de ça. Alors, je crois qu'il faut distinguer tout de suite, quand on parle de l'intelligence comme élément de la science, comprendre qu'il y a une recherche spéculative de la vérité et une recherche pratique de la vérité. La recherche spéculative de la vérité, c'est justement cette recherche de la sagesse spéculative de Dieu. Et une recherche pratique, c'est le point de vue prudentiel. Alors, c'est l'amitié. L'amitié dépasse la prudence, mais l'amitié ne dépasse pas la sagesse. La sagesse, je vais vous la dire.
Il y a une dernière question sur ce que vous dites. Nous atteignons toujours partiellement la vérité sur l'être premier, sur l'homme et ses activités. En cela, la personne humaine vit de manière incoative de la vérité. Il n'est jamais dans un total repos quant à la vérité qu'il cherche et contemple. La vérité n'est-elle pas plutôt ce qui structure le devenir de la personne qu'une finalité proprement dite ? Peut-on dire qu'en plus de l'amitié et de la contemplation, la vérité est une troisième finalité de la personne humaine ?
Elle n'est pas par elle-même une finalité. Elle est une perfection de l'intelligence. Mais est un élément. Ce que je fais maintenant, actuellement, c'est saisir les éléments de la personne. Ce n'est pas les diverses fins de la personne. C'est les éléments essentiels de la personne. S'il n'y a pas une recherche de vérité dans notre vie, on n'atteindra jamais le niveau de la personne. Voilà. C'est ça que ce qu'il faut voir. Ce sont des éléments constitutifs de la personne. Et autonomie et puis vérité. Mais ce n'est pas la vérité seule. La vérité seule, non, elle ne nourrit pas son homme. Donc, c'est la vérité comme un élément essentiel. Et ça, c'est très important de voir ça. C'est pas une finalité. Et, c'est ça. Oui. Alors, donc, le second élément de la personne, c'est la recherche de la vérité. Recherche de la vérité dans l'ordre spéculatif et dans l'ordre pratique. Et c'est cette fameuse parole d'Aristote. Platon, je l'aime, c'est un ami. En Platon, je cherche la vérité. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus que Platon. Pouvoir dire ça tout le temps, c'est nécessaire pour la recherche de la personne. Parce que si vous vous arrêtez à l'amitié de quelqu'un, c'est très bien, mais cette amitié ne peut vous donner qu'un bonheur partiel. Pas de plus. Mais c'est bon d'aimer quelqu'un, Platon, c'est bon de l'aimer. Mais ce n'est pas suffisant, parce que Platon n'est pas la vérité. Si Platon était la vérité, alors très bien, aimer Platon, c'est aimer la vérité. Donc, je crois que après l'autonomie, il y a une recherche de vérité qui est essentielle à la personne. Je ne dis pas une découverte de la vérité. Il y a des gens qui sont de vraies personnes humaines et qui ne sont pas dans la vérité. Qui portent état de terreur. Mais ils recherchent la vérité. Il y a en eux quelque chose de plus grand que ce qu'ils ont comme possession de la vérité. Ils la recherchent tout le temps. Et cette recherche tout le temps de la vérité rectifie. C'est au fond très important ça. Et qu'est-ce qui nous rectifie par rapport à la personne? Est-ce que c'est la possession de la vérité ou la recherche de la vérité? Ça, c'est une belle question qu'il faut se poser. Est-ce que, comme élément essentiel à la recherche de la personne, est-ce que c'est la possession de la vérité ou est-ce que c'est la recherche de la vérité? La vérité, on ne la possède jamais. Celui qui dit « j'ai la vérité », ça ne va pas très bien. Je recherche la vérité. Et plus la vérité est élevée, plus on la recherche. Je recherche la vérité au plan métaphysique. Je recherche la vérité au plan théologique. Je recherche la vérité au plan de la foi. Et cette recherche de la vérité est plus importante que celui qui, à côté de lui, dit « moi, je possède la vérité ». Celui qui dit « moi, je possède la vérité », ça devient quelqu'un d'impossible au point de vue personne. Parce qu'il s'identifie à la vérité. Posséder la vérité, c'est très bien, mais toujours humblement, c'est-à-dire toujours dans une recherche. Jamais se dire, j'ai la vérité, je ne peux plus progresser dans la vérité. Non, ce ne serait pas juste. Je peux toujours progresser dans la vérité. Et c'est ça, c'est très important quand... L'élément, la vérité, c'est la recherche de la vérité spéculative et pratique. Oui. C'est cette attitude d'ouverture de l'intelligence à l'égard de la réalité. Et c'est ça, rechercher la vérité. C'est comprendre que la vérité est plus que ma possession de la vérité. Ma possession de la vérité est ordonnée à la recherche de la vérité. Parce que on voit certaines personnes qui disent qu'ils possèdent la vérité, il n'y a pas moyen de les faire sortir cette vérité de ça. Et ordinairement, elles sont de très mauvaises personnes. Parce qu'elles n'ont pas cette recherche constante de la vérité. Donc, recherche spéculative, tout le temps, l'intelligence ouverte à toute expérience et à l'égard de toute expérience, l'intelligence est plus ou moins forte. Au début, l'intelligence est très fragile à l'égard de la recherche de la vérité. Et l'intelligence se solidifie avec l'acquisition d'habitudes. Et cette recherche de la vérité extrêmement important au plan spéculatif et au plan pratique. Donc je crois que ce serait mieux de mettre pas possession de la vérité, mais la recherche de la vérité. En soulignant recherche de la vérité. C'est parce qu'au fond, la personne, elle se fait tout le temps. Le jour où vous dites j'ai ma personne, ma personnalité, je l'ai, c'est fini. Celui qui dit être une personne ne cherche plus à l'être, et donc ne l'est plus. C'est, au fond, c'est très important par rapport à la recherche de la vérité. Celui qui dit posséder la vérité ne la recherche plus. Et donc, il ne la possède pas. Il est sur la voie de la vérité. On peut dire ça. Je suis sur la voie de la vérité. Il me semble bien que mes recherches aboutissent à une certaine vérité. Mais je vois très bien toute la démarche encore énorme qu'il a à faire. Donc, le second élément, c'est la recherche de la vérité. Le troisième élément de la personne, c'est nécessairement du côté volontaire. Alors là, ça c'est très très net. Une intention de vie. S'il n'y a pas cette intention de vie, cette intention volontaire de recherche de la vérité pratique et spirituelle, et surtout de connaissance de l'homme, une recherche intense de connaître l'homme. Connaissances. Il y a les connaissances par rapport à l'homme. C'est celle-là, avant tout, qui m'intéresse. Connaissance de l'homme et de Dieu. Et au point de vue amour, je veux dire que le troisième élément d'une personne, c'est la volonté, c'est l'intention. L'intention bonne de mes activités, la rectitude qui se fait dans ma volonté. Il ne peut pas y avoir de personne humaine quelqu'un qui manque complètement de rectitude dans sa volonté. Vous voyez, l'acquisition des vertus, la recherche des vertus, elle est pour rectifier toujours mon intention de vie. Mon intention de vie, elle se rectifie toujours de plus en plus. Et ça met du temps, parce que c'est la finalité qui oriente toute ma vie. Une vie qui est orientée non seulement vers la vérité, mais vers l'amour. là où l'amour pourrait être le plus parfait, le plus généreux. Ça fait partie essentielle de la personne. Une personne doit être rectifiée quant à sa finalité. Une personne qui ne cherche pas du tout la rectitude de la finalité, de sa fin, il est fait pour quoi ? L'homme est fait pour quoi ? L'homme est fait pour rechercher la vérité, mais plus concrètement, il est fait pour aimer l'homme et aimer Dieu. Dans un homme où il n'y aurait aucune rectitude de l'intention par rapport à l'homme et par rapport à Dieu, je crois qu'il ne peut pas y avoir de personne. Ce n'est pas nécessairement très déterminé et très absolu, mais c'est au moins une intention de vie qui me met dans le désir de chercher le bien. S'il n'y a pas de recherche du tout de bien, il ne peut pas y avoir de personne humaine. Le bien des hommes, le bien commun des hommes, le bien particulier de tel ou tel homme, le bien particulier des hommes. S'il n'y a pas cette intention profonde qui vient justement transformer ma recherche de vérité et qui permet que cette recherche de vérité se fasse par rapport aux hommes pour leur bien et pour le bien de l'homme. Il ne peut pas y avoir de personne. Alors vous voyez, il y a une distinction là qui est très nette au point de vue personne. Au point de vue, il y a une personne politique et une personne individuelle. La personne politique cherche le bien commun. La personne individuelle et personnelle cherche le bien personnel. Et je crois, sans cette recherche du bien commun, il ne peut pas y avoir de personne humaine. C'est évident que c'est cela qui nous montre le mieux combien aujourd'hui le point de vue de la personne est peu rectifié. Oui. Quelqu'un qui ne recherche pas le bien commun, peut-il être une personne humaine ? Le bien commun est très varié, hein ? Le bien commun, quand on est dans la recherche de la vérité, comme étudiant, le bien commun des travailleurs, le bien commun de ceux qui essaient d'élever une famille le mieux possible, le bien commun et toute la gamme du bien commun. Alors évidemment, vous ne pouvez pas chercher le bien commun d'une façon parfaite dans tous les domaines. Mais dans un domaine, vous pouvez vous rectifier. Et dans ce domaine où vous vous rectifiez, c'est tous les autres domaines qui sont rectifiés. La recherche du bien commun dans un domaine, le bien commun est concret. C'est pour ça qu'on peut rechercher le bien commun dans un domaine. Parce que justement, le bien commun est concret. Alors, vous pouvez vous rectifier là à partir d'une certaine recherche spéciale dans laquelle vous vous placez. La recherche du bien commun implique l'amour. L'amour de la société, du groupe dans lequel vous êtes. Et s'il n'y a pas cet amour civique, communautaire, il n'y a pas de personne humaine. Je crois que c'est indispensable à la personne d'être en acte, celui qui essaie de faire passer le bien commun dans le domaine intellectuel, dans le domaine où l'on recherche. Et ce bien commun peut être la vérité, c'est sûr, mais la volonté est là pour maintenir cette recherche du bien, pour rectifier. Ça rectifie la volonté. Il ne peut pas y avoir de personne humaine sans cette rectitude des intentions. Au fond, c'est la rectitude des intentions volontaires. Alors, à des niveaux différents, c'est évident, là où l'on travaille, dans le domaine où on travaille, dès qu'on travaille humainement, on travaille pour un certain bien commun. Ce bien commun, on le respecte et on l'aime. Et on essaie de l'augmenter. Et ça fait partie de la personne humaine. Là. D'être là, à sa place, pour intensifier cette recherche volontaire du bien commun. Ça relève de la prudence. Oui, ça relève de la prudence, mais c'est plus fondamental que la prudence. La prudence présuppose ça. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est tout de suite la prudence. C'est quelque chose de plus fondamental. Parce que, au fond, au point de vue prudence, il peut y avoir des modalités différentes de voir que ce bien commun devrait être fait de telle ou telle manière. Mais ça, c'est la recherche du bien commun. Et la recherche du bien commun, avoir l'attention de maintenir ce bien commun. C'est quelque chose de plus radical. Et ça, c'est ce qui est nécessaire pour la personne. Un homme qui n'avait aucun sens du bien commun et de la recherche du bien commun et de l'amour du bien commun, il n'est plus une personne humaine. C'est un animal solitaire. Personne humaine n'est pas un animal solitaire. Elle recherche le bien commun. Là où elle est, elle ne peut pas rechercher le bien commun partout. Mais au niveau où elle est, et c'est, cette recherche volontaire du bien commun qui vient assouplir la recherche de la vérité. La recherche de la vérité va se concrétiser dans cette recherche du bien commun. Et nous la rappeler constamment, là où on est. Là où on est. Et s'il n'y avait pas du tout cette recherche du bien commun, il n'y aurait pas de personne humaine. La personne humaine est bonne. Elle est bonne en raison de cet amour. Est vrai en raison de cette recherche de vérité, et la recherche de la personne est bonne à cause de cet amour du bien commun et du bien spécial, bien commun de tous, et le bien particulier de chacun. C'est l'amour de la contemplation. S'il n'y a pas un amour de la contemplation, peut-il y avoir encore une personne humaine ? Parce qu'au fond, l'amour de la contemplation, c'est l'amour de la perfection propre de la personne, de son développement propre. Et celui qui ne regarderait absolument pas ça, peut-il encore être une personne humaine ? C'est pour ça que le bien commun conduit à un bien personnel. Et le bien personnel, c'est le bien de la contemplation. Le bien de la contemplation, il peut se faire dans la mesure où nous aimons ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous, et où nous essayons de leur communiquer